l'année 2008. On commence par une conférence Sciences de l'Homme, j'en suis ravie. Ce partenariat, en effet, intéresse beaucoup l'espace MADES France. Et puis, c'est aussi une des relations amicales suite au partenariat qu'on avait avec Philippe Caron. Maintenant, c'est Yannick qui est là et tout se passe très bien. Nous en sommes très contents. Je remercie beaucoup Madame Edelman d'être là ce soir. Madame Edelman va nous parler des métamorphoses de l'hystérique fin 18e, début 20e. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Nanterre. Vous avez soutenu votre HDR. C'était d'ailleurs le thème de votre HDR. C'était sur les métamorphoses de l'hystérique. Et je vais donc faire passer l'ouvrage. Et vous avez écrit aussi un livre qui s'est bien vendu, vous nous l'avez dit, parce que c'est un thème aussi grand public, entre guillemets, mais fait par une historienne. Donc ça doit être en effet une autre approche. Hein. Que l'approche qu'on a l'habitude de voir, et j'espère que vous viendrez faire une conférence sur ce sujet. On y avait pensé aussi avec nos amis Jacqueline Carrois et puis Nathalie Richard. Donc ça s'appelle l'histoire de la violence, de la voyance, beau lapsus, ça commence bien, et du paranormal 18e à nos jours. Donc je vais vous passer le livre Métamorphose de l'hystérique tout à l'heure, mais je vous invite à ne pas le lire pendant la conférence et à écouter plutôt Madame Edelman. En tout cas, merci infiniment d'être là. Bonsoir.
Bonsoir, je vous remercie aussi. Oui, le dernier, donc l'histoire de la voyance et du paranormal, c'est mon dernier livre. Je suis historienne et je oscille toujours entre sciences occultes et sciences médicales autour de la psychiatrie, de l'aliénisme. Les deux versants de ces thèmes sont vraiment très entrelacés. Hein, donc, ce qui explique que j'aille de l'un à l'autre depuis mon premier livre, qui était déjà sur les visionnaires, les voyantes et les guérisseuses, parce que ce sont surtout des femmes au 19e, surtout au 19e siècle. Donc là, ce sera en effet sur les métamorphoses de l'hystérique. Peut-être le prendre, non ? Si, il marche, mais ouais. Je préfère. Je vais traiter ce thème en historienne, donc en essayant de l'insérer constamment dans l'histoire sociale et dans l'histoire politique du 19e, en proposant parfois des hypothèses, bien sûr, et je pense que ça donnera lieu à discussion. Donc, je traite des métamorphoses de l'hystérique, en effet, du début du 19e à la Grande Guerre. Vous connaissez bien sûr cette maladie, et si pendant près de deux millénaires, les symptômes de cette étrange maladie que les Grecs avaient nommée hystérique du nom de l'utérus, ces symptômes se sont peu modifiés. En revanche, l'interprétation de son étiologie a changé bien des fois, et donc c'est pour cela que je traite des métamorphoses. La maladie a été attribuée tour à tour à l'utérus. Elle a été pensée pendant la période antique comme un petit animal vivant au sein de la femme qui s'agitait quand il n'était pas satisfait sexuellement. Elle a été attribuée aussi à des semences féminines, l'engorgeant ou l'empoisonnant, à des vapeurs provenant de fermentations matricielles et montant au cerveau. Elle a été aussi beaucoup attribuée à une possession diabolique. Et si l'hystérie a été largement liée à l'utérus de la femme, certains médecins... j'ai pas l'impression qu'il marche bien, si ? Ah bon ? Bon, c'est bon alors. D'accord. Donc, si l'hystérie est demeurée largement liée à l'utérus, certains médecins, dès le XVIIe siècle, Sydenham, que vous connaissez peut-être, ou Willis, en Angleterre, avaient déjà attribué l'hystérie au cerveau, enfin, problème nerveux. Donc, vous le voyez, ces métamorphoses de l'hystérique ont une histoire, mais je ne l'ai commencé que donc à la fin du 18e, début 19e, et je l'arrêterai ici à la Grande Guerre, hein, c'est-à-dire à Freud, hein, qui est certainement beaucoup plus difficile à interpréter, du moins à replacer. Donc, mon livre s'arrête à Pierre Janet, au basculement vers le psychique. Donc, la théorie, la utérine, qui est la plus ancienne, donc, puisqu'elle est grecque, comme je viens de le dire, réapparaît au début du 19e siècle, et elle va demeurer dominante en Europe jusque dans les années 1830. Le médecin Louis Villermé, qui est assez connu en France, en est un des porte-parole les plus représentatifs et il publie un traité des maladies nerveuses ou vapeurs, et particulièrement de l'hystérie et de l'hypochondrie. Alors, vous le savez peut-être, ces deux maladies sont des maladies miroirs. L'hystérie, c'est féminin, l'hypochondrie, c'est masculin. Pendant une trentaine d'années à peu près, elles sont vraiment toujours traitées ensemble dans les traités justement des médecins. Et ce livre paraît, il est réédité en 1832, moment donc on le verra où les choses vont un peu changer. C'est lui qui rédige les articles de dictionnaire, notamment dans le fameux dictionnaire qui est édité par Pankouk. Et il va donc vraiment diffuser une représentation de l'hystérie et de l'hystérique qui est très lue, puisque beaucoup d'étudiants en médecine, évidemment, le lisent. Et les termes dont il use pour définir l'hystérie sont, alors je cite, « affection utérine, suffocation de la matrice », vous savez que c'est le synonyme d'utérus, « étranglement de l'utérus, mal de mère comme une mère qui porte des enfants », ou encore vapeur hystérique, bien sûr. On peut parler aussi, on trouve le terme de fureur utérine, qui est là plus proche souvent de la nymphomanie. Hein, les deux sont parfois confondus. Au final, pour lui, cela tient, je cite, aux besoins qu'éprouvent les personnes du sexe. Les personnes du sexe, au XIXe siècle, ce sont les femmes. Hein. C'est la manière de les désigner. Chez qui l'influence des organes sexuels est toute puissante. Et selon sa conception, la preuve la plus flagrante est que lorsqu'une femme hystérique se marie, enfin lorsqu'une jeune fille ou une jeune femme se marie, son hystérie cesse. Et c'est une des thérapeutiques de l'hystérie dans ses premières années, le mariage. Sinon, il prescrit des lotions calmantes dans le vagin, des frictions, des activités ménagères, hein, beaucoup bouger de façon à justement pallier cette absence éventuellement de relations sexuelles. Et la masturbation est citée aussi, toujours en latin, mais pour ses effets bienfaisants justement, mais elle est évidemment proscrite. Hein, donc c'est cité aux marges, mais les choses sont non pas clairement dites, mais elles sont dites en latin. Donc, c'est aussi une reconnaissance du plaisir féminin, puisque on reconnaît qu'il existe. Hein. Alors, le terme de sexualité, de sexologie n'existe pas. Le terme de sexualité va être vraiment développé dans la deuxième moitié du 19e siècle. Hein. Alain Corbin vient de sortir un livre sur les plaisirs. Et Sylvie Chaperon vient d'écrire aussi un livre sur l'histoire de la sexologie. Elle fait démarrer vraiment le terme après 1870. Hein. Mais là, il y a une reconnaissance tout de même du plaisir féminin, d'autant que beaucoup de médecins pensent qu'il est encore nécessaire à la procréation. C'est-à-dire que, on verra ensuite, il y a quelques changements. Donc, cette interprétation est conforme à la méthode anatomoclinique de ce début de siècle, qui est immergée, vous le savez, dans la révolution clinique. Et donc, les médecins décrivent clairement les symptômes de la maladie, qui sont en général des convulsions, éventuellement des contractures, des cris, des évanouissements, ces fameuses vapeurs. Et donc, cette interprétation, cette description, cette nosologie et cette étiologie vont être dominantes après donc, la Révolution française et après au début du XIXe siècle. Les médecins sont en train de reconfigurer la femme absolument comme une mère, exclusivement une mère. Je cite, c'est un article de Viret, je sais pas si vous le connaissez, c'est un médecin philosophe qui a beaucoup, beaucoup écrit. Qu'est-ce donc que la femme ? C'est la tige essentielle de notre espèce, elle est la dépositaire, la matrice originelle des germes et des œufs, tout individu femelle est uniquement créé pour la propagation, ses organes sexuels sont la racine et la base de toute sa structure, mulière, propter, utérum, condita est, tout émane de ce foyer de l'organisation, tout y conspire dans elle, le principe de sa vie pardon, le principe de sa vie réside dans ses organes utérins, influe sur tout le reste de son économie vivante. Donc, le discours médical s'attache aux côtés du discours politique à recréer une hiérarchie entre hommes et femmes, en présentant le sexe comme un des fondements essentiels d'une pathologie spécifique dans ce dimorphisme marqué d'une manière un peu différente de celui du siècle précédent. Désormais, le genre se fait sexe et la femme est le sexe. Elle est vraiment totalement dominée par sa matrice, par son utérus. Et cette femme, donc, va être constamment menacée pendant ses premières années par les débordements de son sexe, de sa sexualité, donc avec un anachronisme sur le mot. Elle est sans doute une figure acceptable, et là, c'est une hypothèse que je propose. Dans ces premières décennies, dans ce premier tiers donc, du XIXe siècle, en effet, la famille a été mise en danger par la Révolution française. Vous savez peut-être qu'en 1792, il y a eu une loi sur le divorce extrêmement libérale. C'était par consentement mutuel qui a été le symbole d'une grande liberté, mais très vite la famille a été restaurée à travers la promulgation du Code civil en 1804, qui met l'épouse sous la tutelle du mari et rend la femme épouse vraiment comme irresponsable à l'égal des mineurs, des enfants bien sûr, et des fous. Quant au divorce, il avait été rendu moins égalitaire déjà par Napoléon Ier et il a été interdit par le gouvernement de Louis XVIII en 1816. Donc dans ce cadre, il me semble que l'existence d'une femme hystérique dominée par son sexe n'est pas plus à craindre que sous l'Ancien Régime, puisque le mariage, finalement, est la thérapeutique. Et donc le mariage en devient presque une obligation de nature. La femme doit se marier et ainsi elle va bien aller, elle va bien se porter. Et la femme est assignée donc à son sexe, loin du politique. Vous savez aussi bien sûr que les femmes, nulle part d'ailleurs, ce n'est pas spécifique à la France, ne votent. Et donc elles sont écartées du politique alors que la Révolution française aurait pu leur donner, enfin aurait pu, on aurait pu penser du moins que la Révolution française leur accorde ce droit. Donc, cette pensée dominante, elle permet peut-être de mieux comprendre pourquoi d'autres théories qui sont émises à ce moment-là ne sont pas entendues, ne sont pas pas comprises. Elles ne sont pas entendues. On ne veut pas écouter les médecins qui la disent. Alors, je pense aux théories magnétiques, enfin autour du somnambulisme magnétique, c'est-à-dire de ce qu'on appellera l'hypnose, que Mesmer avait non pas découverte, mais c'est son disciple, Jacques le marquis de Chastenay, marquis de Puységur, qui l'avait découverte. Et il proposait une autre théorie en soignant ces maladies nerveuses par le somnambulisme magnétique, c'est-à-dire par la mise en état d'hypnose. Et d'autres médecins avec Mesmer, qui sont des médecins qui ont aussi beaucoup écrit, beaucoup soigné, c'était souvent des médecins qui soignaient par les eaux thermales, ce sont déjà à la mode. Je pense à Alexandre Bertrand ou à Joseph Despine, qui soignent vraiment par des cures, comme ils disent, de somnambulisme magnétique qui traite l'hystérie. Bon, cela n'est pas absolument pas entendu. De même, lorsqu'Étienne Georget, qui est un médecin aliéniste à la Salpêtrière, dit que l'hystérie, puisque il a énormément d'hystériques, il soigne des hystériques à la Salpêtrière, il dit que l'hystérie est liée au cerveau. C'est une maladie de l'encéphale et il n'est pas entendu non plus. Donc en 1821. Les choses vont évoluer. Elles évoluent aussi, bien sûr, avec des travaux qui sont faits sur le système nerveux, sur le cerveau. Le cerveau est très, très mal connu, bien sûr, encore au début du 19e, mais on commence à ne plus le concevoir vraiment à l'égal du poumon, comme on le concevait quelques siècles, au début du 18e siècle. les recherches notamment de Franz Josef Gall, je pense que vous le connaissez, ce phrénologiste qui va être un des premiers à concevoir le cerveau avec différentes... différents endroits du cerveau, et non, il ne le conçoit pas d'une manière moniste. Vic d'Azyr, Magendy, Flourens aussi vont développer donc l'idée que peut-être l'hystérie est d'origine neurologique. Là aussi, le terme n'existe pas. On parle de maladie nerveuse ou de neurologiste éventuellement. C'est un moment aussi où la société se transforme en France et en Europe. Le libéralisme se développe beaucoup. Les années 1830 sont une année de tous les dangers pour les systèmes politiques d'ordre. En France en particulier, c'est là où naissent les grandes théories socialistes de Fourier, de Saint-Simon, qui vont concevoir la société d'une manière beaucoup plus égalitaire, en particulier Charles Fourier, qui estime qu'en thèse générale, les progrès sociaux s'opèrent en raison du progrès des femmes vers la liberté et les décadences en raison de la décroissance de cette même liberté. Et que donc l'extension de la liberté des femmes, des privilèges des femmes, et le principe de tous les progrès sociaux. Et l'idée libérale, donc, elle-même se répand dans toute l'Europe. Vous savez sans doute qu'il y a beaucoup de révolutions en Europe et des constitutions qui mettent en question les régimes conservateurs monarchiques. En France, donc, il y a la révolution de 1830, mais... le retour à l'ordre se fait avec Louis-Philippe d'Orléans et l'ordre social va s'appuyer à nouveau sur la famille. La famille continue à avoir une place particulièrement nodale. C'est toujours l'instance vraiment de régulation fondamentale de l'ordre social. Pour les dirigeants, je pense à François Guizot, par exemple, qui est un de ceux qui mènent l'idéologie, enfin qui prônent une idéologie libérale, le mariage permet l'ordre social parce que la famille préfigure la subordination acceptée de chacun, la mère au père et l'enfant, les enfants à leurs parents et ensuite à leur père, bien sûr. Dans un tel dispositif, l'hystérique probablement est moins bien acceptée, du moins c'est là encore une hypothèse. Cette inconvenante malade de son sexe est conservée donc à l'hystérique une étiologie sexuelle irrépressible, incontrôlable, conduit peut-être à faire de la femme une catégorie sociale, une catégorie marquée par l'anormalité. Au contraire, définir son étiologie, l'étiologie de l'hystérique comme nerveuse, la place dans une normalité, dans une médecine clinique, et permet en plus de la contrôler, bien sûr, par des thérapeutiques classiques. Et on voit, alors c'est un peu déterministe ce que je vous expose, bon je le fais beaucoup plus en nuance dans mon livre, mais comme vous voyez il est évidemment un peu long pour le faire en une heure, donc je donne les grandes étapes. Et donc on voit peu à peu l'étiologie de l'hystérie basculer en France et en Europe. Avec des temps marquants, en 1830, l'Académie royale de médecine de Bordeaux, qui interroge les médecins sur, à travers vous savez, des concours, des mémoires, etc., sur l'étiologie de l'hystérie, va donner le prix, une médaille d'or à Frédéric Dubois, Dubois dit d'Amiens, et lui-même va concevoir comme Étienne Georget l'hystérie, comme une maladie de l'encéphale, très exactement produite par la moelle allongée et spinale. Et en même temps, il montre que les forces de l'esprit peuvent susciter dans les organes, l'utérus en l'occurrence, des altérations matérielles profondes. Et donc, il va faire de l'hystérie, et là, c'est reconnu officiellement par ce prix, une maladie qui est donc d'ordre, je dirais, neuro-utérine, pour faire un anachronisme, mais pour être comprise, donc qui reste liée à l'utérus, mais qui est d'origine nerveuse. Et il confère évidemment à l'hystérique, à ce moment-là, une sorte d'honorabilité. Et il insiste d'ailleurs longuement, comme tous ces médecins, il y a des grandes parties, voire des centaines de pages, enfin au moins une centaine de pages, sur le statut moral, le statut de la femme, de l'épouse, les facteurs moraux, les facteurs hygiéniques qui, d'après lui, sont décisifs dans le déclenchement de la maladie. Et donc, son étiologie, l'étiologie qu'il propose, confère à l'hystérique une honorabilité que la thèse utérine ne lui donnait pas. Ceci se confirme par deux prix qui sont donnés conjointement, cette fois par l'Académie royale de médecine en 1845, à deux médecins, Jean-Louis Brachet, qui va lui aussi donner une étiologie hystérique nerveuse comme Dubois d'Amiens, et puis un autre qui s'appelle Hector Landouzi, qui va défendre à son tour la thèse neuro-utérine. Brachet, allant plus vers une thèse neurologique, moins liée, enfin beaucoup plus liée au cerveau, ou du moins au système nerveux supérieur, que Landouzi, qui continue à défendre plus une thèse nerveuse autour de l'utérus. Donc, on voit cette évolution, elle se fait aussi en Angleterre, par exemple, où l'interprétation nerveuse est donnée en 1837. La neurologisation de l'hystérique va s'accentuer. On le voit notamment, j'ai fait l'étude dans mon travail au travers du nombre de thèses soutenues. Autour des années 1850, on a vraiment un basculement. Une majorité de thèses soutenues autour de l'hystérie donnent pour étiologie une étiologie nerveuse. Donc là, on peut aussi, bien sûr, faire le rapprochement, et je le fais avec toutes les révolutions qu'il a parcourues l'Europe, et la France en particulier, en 1848. Vous le savez, on a une seconde république en 1848, qui, elle aussi, va se fonder sur une place de la famille très importante. Dans la Constitution, dans le préambule de la Constitution, il est dit que la Seconde République a pour base la famille, le travail, la propriété et l'ordre public. Et la famille, donc, est à nouveau célébrée, d'autant plus que, vous le savez, le suffrage universel est donné en mars 48, ce suffrage universel qui ne l'est pas, mais qui est, dit-elle, qui ne l'est pas puisque les femmes ne l'ont pas. Et un certain nombre de femmes réclament ce suffrage. Il ne leur est pas donné. Bon, il faudra, là aussi, vous le savez, attendre avril 44. Mais peut-être, en effet, faut-il donner un certain nombre de compensations, là aussi je fais vite, mais aux femmes, et certainement ne pas leur attribuer cette irrépressibilité, j'ai l'impression que je fais un néologisme, ne plus donner à l'hystérique ce caractère irrépressible. Et donc l'hystérique va devenir une malade nerveuse. Une malade que l'on peut soigner, et une malade donc qui est comme les autres malades. Et l'apogée de cette interprétation se fait avec Pierre Briquet. Pierre Briquet, c'est un médecin hospitalier à la Charité, un médecin hospitalier de l'hôpital parisien La Charité. On pourrait dire généraliste, le terme n'existe pas, mais il n'a pas de spécialité particulière. Et il va faire la première synthèse neurologique en étudiant plus de 400 cas et en publiant un traité clinique et thérapeutique de l'hystérie en 1859. C'est un traité tout à fait intéressant parce que donc il s'appuie sur une médecine clinique, donc énormément de cas étudiés qu'il donne dans son livre. Et il va mettre l'accent sur les femmes du petit peuple. Jusqu'alors, on avait tendance à dire que les hystériques, c'était la bourgeoise qui avait ses vapeurs dans les salons, qui convulsait un peu, qui s'évanouissait et qui avait ses nerfs. On le retrouvait chez Landouzi, chez Brachet, chez Dubois d'Amiens. Ici, Briquet donc travaille en hôpital, et vous le savez, l'hôpital du 19e est réservé aux indigents. Donc on a essentiellement un petit peuple, des villes surtout d'ailleurs, parce que les campagnes y viennent peu, et donc ces cas sont essentiellement des femmes de Paris. Il va dire qu'il estime que plus d'une femme du peuple citadin sur trois est hystérique, hein, ce qui est très important. Une sur trois. Et donc il remet très fortement en question l'idée que ce sont les classes aisées et oisives qui formeraient l'essentiel des malades. Et il insiste surtout sur la tristesse des hystériques, alors qu'on les considérait un peu comme des faux folles. Hein. Il les montre plongés vraiment dans le malheur, dans la souffrance quotidienne. Il en fait une femme douloureuse. Et il affirme surtout haut et fort, et pour la première fois, et la seule, parce que je reviendrai sur ce qu'on pense souvent de Charcot, Charcot fait des liens avec les ovaires, que ne fait pas Briquet. Briquet, donc, affirme vraiment dans ce traité, dans quelques articles, mais surtout dans ce traité, qu'aucun lien n'existe, de quelque nature que ce soit, entre l'appareil génital des femmes et l'hystérie. Pour lui, c'est une névrose de l'encéphale. Alors, névrose, vous le savez, le terme renvoie simplement à maladie de nerf. Il ne faut pas du tout l'interpréter là au sens freudien du terme. Hein. C'est donc une maladie des nerfs, névrose de l'encéphale. Terme, bien sûr, que reprendra Charcot. Pierre Briquet, d'ailleurs, sera... Pierre Briquet, ses dates, c'est 1796-1881. Donc, il connaît Charcot et Charcot le connaît. Hein. 1796-1881. Alors, c'est aussi intéressant. Enfin, bon, on pourra y revenir, mais c'est quelqu'un qui a été formé vraiment au tout début du 19e siècle. Hein. Charcot, lui, né en 1825. Donc, il est un petit peu plus... Enfin, d'une génération... de la génération d'après. Et Pierre Briquet sera très sévère envers un des élèves de Pierre Richer, un des élèves et disciples de Charcot, dans un mémoire que j'ai retrouvé qui n'était pas connu à l'Académie de médecine. Et il jugera très, très sévèrement le travail de Charcot. Mais bon, comme il meurt en 1881 et qu'apparemment c'était un vieux monsieur très, très ennuyeux qui n'était pas très aimé de ses collègues, bon, on n'en a pas tenu compte et Charcot ne l'a pas vraiment combattu. Bien qu'il ait été parfois assez sévère avec lui lorsqu'il exposait certains cas. Donc, son traité est un traité, encore une fois, synthétique, qui n'est pas accueilli d'une manière novatrice. Ce qui m'a étonnée, parce que je pensais que, en regardant, faisant une revue de presse médicale, je pensais qu'il serait considéré comme novateur. Non. Donc, il me semble que cela veut dire que c'est vraiment l'apogée, enfin, que déjà l'idée de l'hystérie comme malade nerveuse était là, était présente hein, depuis, je vous l'ai dit, les années quasiment 1830, et donc le basculement s'est fait lentement. Les revues médicales font, enfin il y a des petits articles sur lui, mais bon, elles trouvent que c'est intéressant, sans plus. Et donc l'interprétation savante de l'hystérique. Et de l'hystérie, donc à la fin des années 50, eh bien, sans doute celle d'une maladie nerveuse. Alors, bien sûr, puisque c'est une névrose de l'encéphale, l'homme peut être hystérique, c'est une évidence. Cependant, et c'est là évidemment important, tout ce qu'il avait dit depuis Georget et d'autres pensent en effet que puisque c'est une maladie nerveuse, les hommes peuvent être hystériques, mais... seuls les hommes qui ont une sensibilité féminine, c'est-à-dire qui sont des invertis, hein, c'est le terme utilisé pour homosexuels, peuvent être hystériques. Et Briquet dit cela, l'homme qui est hystérique, c'est le renversement des lois constitutives de la société. Donc là, on a une représentation aussi très, très forte du partage binaire entre hommes et femmes et des représentations qu'on connaît quand même assez bien de l'homme et de la femme. Alors, c'est cette conclusion qui va être fortement infléchie par les travaux de Jean-Martin Charcot. Jean-Martin Charcot, bon, je pense que c'est celui que vous connaissez le mieux ou le moins mal. Puisqu'il est quand même, il a été rendu très très célèbre par ses travaux sur l'hystérie, ce qui est tout à fait paradoxal, puisque c'est un des domaines où il, où il n'a pas vu juste, hein, où il a bien décrit, mais il s'est trompé sur l'étiologie, mais il a été mis en exergue, bien sûr, par les psychanalystes. Même cela dit, si actuellement, enfin, j'avais fait une petite enquête sur l'idée, est-ce qu'il y a un mythe Charcot, comme il y a un mythe Pinel, par exemple, qui a été construit, et on s'aperçoit en faisant des revues, revues de presse et revues d'articles, etc., qu'il est bien souvent confondu avec son fils, hein, Jean-Baptiste Charcot, et que dans certains journaux, on a la photo de son fils quand on parle de lui. Et il est connu surtout à partir des années 1950. Bon, sinon, il est connu, bien sûr, comme un des grands neurologues. Et c'est un neurologue, hein, c'est en aucun cas un psychiatre. Donc Jean-Martin Charcot va accomplir une très grande œuvre neurologique dans laquelle s'intègre son travail sur l'hystérie qu'il commence en 1870. Il a pris un service, vous le savez peut-être, en 1860 à la Salpêtrière, un service qui sera celui des hystériques et des épileptiques non aliénés, donc il ne s'agit en aucun cas de folles, dans ce vaste hôpital qui s'appelle l'Hospice de la vieillesse femme, hein, le nom de la Salpêtrière viendra un petit peu après. Et devant la spécificité de quelques cas et la richesse de ces ressources humaines nouvelles, il a des centaines et des centaines de malades. En plus, ce sont souvent des vieilles femmes qui meurent, et donc il peut les autopsier, observer la maladie, et ce qui, c'était quelqu'un certainement d'extrêmement doué et intelligent avec un esprit clinique fabuleux, ce qui explique qu'il ait découvert autant de maladies neurologiques, mais en même temps, et il le dit lui-même d'ailleurs, il avait ce troupeau, hein, c'est le terme qu'il utilise parfois, ces immenses ressources humaines à sa disposition. Et il va donc devenir le grand spécialiste des maladies nerveuses. On crée une chaire pour lui en 1882, une chaire des maladies nerveuses, et il va donc observer ces malades et démontrer, pense-t-il, que tous les symptômes hystériques sont liés à une lésion du système nerveux. Donc il continue à penser que c'est une maladie du système nerveux. Il estime que c'est une lésion dynamique, sine materia, puisque à chaque fois qu'il dissèque, qu'il observe, il ne trouve rien. Mais il pense qu'on trouvera. Et à la fin des années 1870, il va déterminer, sous le désordre apparent de l'hystérie, qui en effet était un proté, comme l'avaient dit beaucoup de médecins avant lui, il va, sous ce désordre apparent, déterminer un ordre caché de crise, et il va en démontrer la régularité, qu'il va présenter là aussi régulièrement sur l'amphithéâtre qu'il a fait construire à la Salpêtrière, qui malheureusement a été détruit. Alors je ne sais pas si on aura le temps, mais j'avais un CD et puis un rétroprojecteur, enfin on pourra peut-être passer. Oui, d'accord. Oui, ça va, on peut en passer. Non, mais on va prendre... Non, je préfère le rétroprojecteur, parce que le temps, bon... Je les mets ou... Ah, d'accord. Oui, c'est dans l'iconographie photographique de la Salpêtrière de Bourneville et Régnard. Je pense que vous les connaissez. Oui, je ne vous voyais rien aussi là. Non ? C'est mieux ? Oui, puis moi ça m'arrange, comme ça je peux je veux regarder mes notes. Donc, il va déterminer un ordre caché des crises, dont il détermine une régularité avec quatre grandes phases. Une attaque donc épileptoïde qui va donc d'abord le cri, hein, un cri qui paraît-il, et alors on l'a plus, hein, il y a certains psychanalystes qui en parlent, bon, peut-être vous-même avez eu l'expérience, une sorte de cri qu'il compare à un cri du loup, à un coup de fouet, enfin quelque chose qui est certainement épouvantable. Alors elle est attachée, hein, parce qu'elle risquerait de se faire mal, on voit les sangles, et parfois on a même des draps qui sont passés en diagonale pour les maintenir. Et puis commence donc la crise. Alors, vous avez là le début d'une crise, donc épileptoïde. Ensuite, il a ce qu'on appelle le clownisme.
On va la mettre plus haut parce qu'on ne voit pas.
Ah, pardon, oui, oui. Oui, ah, bah, vous pouvez la mettre comme vous voulez. Non, on la voit bien. Donc... clownisme, et là on a tout clownisme, c'est-à-dire des formes, le corps prend des formes qui ressemblent à des formes des clowns, hein, et notamment le grand arc. Hein. Alors là, il est la malade va reposer sur les chevilles et sur la tête. Hein. Ce grand arc, alors j'en ai un autre. Bon, je ne ferai pas l'analyse avec le questionnement par le genre, parce que ce serait un peu long, mais on voit bien la différence de la présentation. Vous voyez le grand arc, donc photographié pour une femme, et voilà le grand arc photographié pour un homme. Je vais dire que bientôt qu'il y a des hommes. Alors, il est dans le laboratoire d'Albert Londe. Hein. Il y a un laboratoire photographique qui est créé et on transporte les malades ou on les photographie. Donc ça, c'est le début de la crise. Et voilà le grand arc qui est superbe. Oui. Et ce n'est pas un hasard, bien sûr. Hein. Donc voilà, là, vous avez un beau grand arc. Et Charcot d'ailleurs le décrit comme tel. Hein. Vous savez que Charcot était un amateur d'art très grand. Et donc voilà. Et on n'a pas l'équivalent, hein, pour les femmes. Voilà. Donc là, vous voyez, attaque d'hystérie chez l'homme. Alors vous avez toutes les phases. Hein, je pense. Voilà. Donc, alors ça a été dessiné aussi par Richer. On les trouve. Bon, là, je les ai pas. Je les ai éventuellement sur le CD, mais bon, je pense que c'est suffisamment visible. Donc, on a ces phases, et puis la dernière phase, ce sont les attitudes passionnelles pendant lesquelles les malades délirent, mais Charcot relie ce délire à une attaque nerveuse. Donc ce délire n'est absolument pas écouté, ni entendu. Mais c'est ce que Freud verra en 1885-86. Et bon, vous savez qu'il interprétera lui autrement. Et alors, pardon. Donc voilà les attitudes passionnelles. Hein, alors c'est la belle Augustine, hein, que vous connaissez peut-être. Bon, alors là aussi, on peut évidemment faire tout un discours, hein, sur le maître et l'hystérique. Donc, deux attitudes, érotisme, extase. Donc, quatre phases, hein, épileptoïde, clownisme, attitude passionnelle et délire. Et cette hystérie majeure, avec ces quatre périodes, permet de résoudre la question de la place des sentiments et des passions dans l'hystérie. Et en décomposant la crise hystérique en quatre phases, Charcot va pouvoir justement, comme je l'ai dit là à l'instant, amputer vraiment tout ce côté passionnel, enfin qu'il appelle pourtant passionnel, l'amputer du caractère, je dirais, psychique, là aussi, pour être anachronique. La référence à la passion, maintenant, disparaît totalement, hein, alors que Briquet la maintenait. Et c'est là vraiment un seuil qui est passé. il n'y a plus aucune expression de passion. Ce sont des femmes qui souffrent, elles souffrent d'une maladie nerveuse. Charcot ne voit pas, en effet, n'entend pas cela. Et c'est assez fascinant pour moi, historienne, mais pour vous aussi, si vous lisez ces textes, et notamment les textes de Bourneville, parce que Bourneville, qui va faire prendre ses photos, Bourneville lui prend en note. Dans l'iconographie photographique de la Salpêtrière, on a les notes qu'il a prises du discours du discours de ces malades. Et pour nous, hommes et femmes du 21e siècle, bon, quand on voit qu'elles ont été violées, pour la plupart, qu'elles ont eu des chocs extrêmement importants et qu'elles ne parlent que de sexe quasiment dans leur discours, bon, l'anachronisme est patent. Bon, mais Charcot, donc ni les médecins qui l'entourent n'entendent les paroles des hystériques. Il n'écoute pas ses délires au sens psychique du terme. Pour lui, c'est vraiment nerveux. Donc Charcot va parvenir en une vingtaine d'années à définir, bon, vous pouvez les regarder, hein, après tout, va parvenir en une vingtaine d'années à définir un type fondamental et unique de l'hystérie où rien n'est laissé au hasard. Et il va donc d'abord étudier l'hystérie féminine, puisqu'il a un service de femmes, la Salpêtrière, les services, vous le savez, sont des services d'hommes ou de femmes. Et il va, à partir des années 1880, travailler sur l'hystérie masculine. Et il va définir, alors il va ouvrir une consultation externe à la Salpêtrière et puis recevoir chez lui, notamment dans l'hôtel qu'il a acheté, vous le connaissez peut-être, c'est Boulevard Saint-Germain, c'est l'actuelle maison de l'Amérique latine, si vous ne le connaissez pas, allez-y, c'est un très beau lieu. Et il a une maison à Neuilly aussi. Et donc, il va montrer que, en effet, l'hystérie touche les deux sexes, mais qu'elle touche dorénavant l'hystérie, enfin qu'on a dorénavant un hystérique mâle. Et ce n'est pas de moi, c'est lui qui utilise le terme. Donc plus d'inverti. L'hystérique mâle est un homme viril, un homme invrai, nullement efféminé. Et la neurologisation donc, de l'hystérie va prendre toute son ampleur. Et son étude des hommes hystériques va montrer une moins grande violence. Alors, on a toujours, bien sûr, ce type, ça c'est Louis, mais enfin, pour les femmes, vous voyez une hystérique, bon, elle est dans la séduction, bien sûr, mais bon, ça c'est pas ce qui est intéressant. Son hystérie se marque juste par les poings fermés. C'est une des... celle-là, c'est aussi à la charité dans le service de Louise, sont dans un état d'hypnose. Alors, j'ai pas eu le temps d'en parler, ce serait beaucoup trop long, on pourra en parler plus longuement ensuite, mais Charcot va considérer que l'hypnose est une hystérie expérimentale, c'est-à-dire qu'il pathologise complètement l'hypnose et il l'a réintroduit par là même, par une communication à l'Académie des sciences en 1884, il l'a réintroduit dans le système hospitalier, alors que le somnambulisme magnétique, qui était l'hypnose, avait été condamné et en disant que cela n'existait pas. Et donc il y a énormément de travaux qui sont faits autour des hystériques qu'on met en état d'hypnose. Alors ici, c'est elles ont été mises en état d'hypnose par un miroir aux alouettes, qui est là. Ça tourne, vous voyez, et ça hypnotise. Et donc on fait des expériences donc dans cet état, on provoque des contractures importantes. Voilà ici une femme qui est mise raide, donc complètement contracturée. Bon, c'est aussi un phénomène de cirque et de spectacle qui seront d'ailleurs condamnés. On a aussi des attaques, elles peuvent rester dans des postures pendant des heures et des heures. Ce sont les fameuses attaques de crucifiement. Elles restent bras en croix, poings serrés, Et là, elles ont manifestement été transportées. Enfin, l'une est photographiée dans le laboratoire, mais l'autre a été transportée à l'extérieur, certainement dans la cour. Donc c'est la fameuse Madeleine, d'ailleurs, qui sera ensuite étudiée par Pierre Janet. Et donc ces phénomènes spectaculaires vont peu à peu disparaître lorsque Charcot va travailler avec les hommes hystériques. Voilà un homme hystérique qui a été aussi photographié, qui est particulièrement beau. On voit simplement sa contracture, il a le cou, c'est à l'envers mais c'est pas grave, un petit peu gonflé. Ici, un homme qui... Bon, je vais prendre l'autre. Hystérique, on voit la contracture des mains. Enfin, on voit ou on ne voit pas très bien. Et sinon, les hommes qu'il va décrire, que Charcot va décrire, ce sont des artisans, des cheminots, qui vont être... Voilà, ça c'est un... Alors, on a, vous le voyez, loin des photos prises des femmes. État mental et faciès dans l'hystérie masculine. L'hystérie masculine va essentiellement une hystérie, une neurasthénie hystérique. Les hommes sont très très tristes, alors que les femmes, pour Charcot, les femmes continuent à être plutôt joyeuses et souvent dans la séduction, elles se mettent des petits nœuds, dit-il, etc. Les hommes sont, j'ai d'autres photos, mais bon, celle-là est je trouve très parlante, hein, c'est Albert Londres qui l'a faite. Là aussi, on voit sa tristesse, on voit un petit peu une contraction, peut-être d'un œil, mais c'est difficile à discerner. Charcot va dire qu'il y a des hystériques mâles. Il pense que les hystériques hommes donc sont nombreux. Pierre Briquet disait qu'il y avait un homme pour 20 femmes hystériques. En 1886, Charcot se demande si, je cite, la névrose hystérique est vraiment comme on l'a cru, comme on l'a prétendu jusqu'ici, plus fréquente chez la femme que chez l'homme. Et il va donc basculer peu à peu vers l'idée qu'il y a presque une égalité, et peut-être même plus, d'hystérique homme que d'hystérique femme. Pour lui, et la formule est célèbre, l'hystérie est une et indivisible. Une et indivisible. Alors là aussi, on peut entendre les choses à la manière de la Troisième République, c'est-à-dire une égalité dans la différence, et c'est l'hypothèse que je ferai. La Troisième République des années 80, vous le savez, redonne beaucoup d'égalité tend du moins à une égalité entre les hommes et les femmes, en ce sens que l'homme et la femme sont dorénavant complémentaires. On crée les lycées pour les filles en 1880. Et l'hystérie la formule une et indivisible peut être entendue de cette façon, c'est-à-dire répartie de manière égale, mais dans la différence. En effet, la manière dont les filles, les femmes sont décrites... excusez-moi, je vais reprendre autrement. Pour Charcot, très clairement, toutes les femmes sont susceptibles d'être hystériques. Pour les hommes, on pourrait le penser, mais quand on lit son texte, enfin quand on lit ses textes, d'abord il y a assez peu de cas qui sont traités, et on a très peu de cas de bourgeois, d'hommes aisés. Bon, pourtant il en a reçu, mais il n'en a pas rendu compte. Et très vite, dans les années 1890, donc peu avant sa mort, puisqu'il meurt en 1893, il va réduire vraiment le champ social de la dangerosité hystérique masculine. Il va mettre en avant une pathologie les hystériques mâles sont des parias, sont des vagabonds. Il met en avant une pathologie centrée sur la pathologie du mouvement, celui du vagabond, du voyageur irrépressible, de l'errant. Or, vous le savez, le vagabond est une figure particulière à la fin du 19e. En France, il est condamné d'ailleurs, hein, les vagabonds sont arrêtés, et c'est aussi le moment des grandes migrations. Il y aura d'ailleurs plusieurs textes, dont une thèse d'Henri Meige sur le juif errant, et le juif sera errant sera pathologisé, c'est-à-dire qu'il considérera que si les juifs sont... Enfin, si il y a ce mythe du juif errant, c'est parce qu'ils sont neurasthéniques et hystériques. Hein. Et donc, l'hystérique devient vraiment cet homme-là qui n'a ni métier, ni profession, ni domicile fixe. C'est une sorte donc de contre-modèle qui est probablement acceptable par la société. Bon, quant aux femmes, je l'ai dit, elles peuvent toutes être hystériques. Donc, je vais conclure pour vous nous laisser le temps de parler. Voilà ces métamorphoses. Alors, vous savez sans doute qu'en 1893, dès la mort de Charcot, l'hystérie est réinterprétée. Alors, sous-jacent, il y avait déjà beaucoup de mouvements. Charcot ne fait absolument pas l'unanimité. Hein. Bon, ça, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais la thèse de l'hystérie utérine reste très dominante. La littérature, et j'ai beaucoup travaillé sur les Goncourt, sur Zola, sur Flaubert, bon, font toujours de la femme une hystérique, en particulier Zola et les Goncourt. L'hystérie, donc, le fait est là, est réinterprété immédiatement. Babinski, qui était pourtant le disciple chéri de Charcot, hein, c'est lui qui tient la belle Blanche sur le tableau de Brouillet que vous connaissez peut-être, où Blanche est en catalepsie. Babinski va démembrer l'interprétation, il va faire de l'hystérie une maladie de la suggestion qu'il appelle le pitiétisme. Hein. Tous ces médecins d'ailleurs avaient voulu changer les noms, hein, parce que c'est vrai qu'hystérie c'est utérus, donc bon, c'était Charcot a essayé, ils ont tous essayé, mais ça n'a pas marché. Et puis, d'autres médecins vont réinterpréter cette maladie. Jules Desgerines, qui est un des grands neurologues, qui est aussi à la Salpêtrière, qui aura la chaire d'ailleurs après Raymond au début du 19e siècle, va mettre l'hystérie, l'étiologie de l'hystérie du côté de l'émotion. Pierre Janet et Sigmund Freud, vous le savez, vont lui donner une dimension psychique. Janet l'inscrivant dans un subconscient fragilisé, une sorte d'asthénie, un manque, une fragilité donc, et Freud au contraire dans un excès. Et dorénavant, donc, très vite, les hystériques ne vont plus parler seulement avec leur corps, elles vont continuer. Hein, les paralysies continuent. Bon, je pense que vous avez lu les études sur l'hystérie de Freud qu'il publie en 1895 avec Breuer. Les manifestations du corps se font toujours, mais les hystériques, dorénavant, sont écoutées, donc elles commencent... où ils, d'ailleurs, commencent à mettre leur souffrance en mots, et ils sont écoutés. Alors, les grandes attaques disparaissent, cette grande hystérie de culture, comme l'avait appelé Bernheim à Nancy, bon, je n'en ai pas parlé, lui considère qu'il n'y a pas d'hystérie, de toute façon, enfin, qu'il y a une hystérie, mais c'est vraiment juste la crise. Ces grands phénomènes disparaissent, enfin, quoique certains psychanalystes m'ont dit qu'ils avaient vu sur leur divan, quelquefois, des grands arcs. Donc j'espère que, enfin je ne sais pas si vous avez des cas à décrire. Et bon, donc pour que cela change, il a certainement fallu à la fois que des médecins se mettent à pouvoir entendre ces discours. Et là, il faut aussi, je pense, essayer de faire un certain nombre d'hypothèses sociales et politiques autour de ces changements en effet très importants à la fin du 19e siècle en Europe. En particulier, en Europe et en France en particulier. Évolution aussi des recherches neurologiques qui ont quand même beaucoup développées. Évolution influence très forte du darwinisme, hein, qui a beaucoup influencé l'interprétation de l'évolution de l'homme et l'ensemble des sciences de l'homme, notamment dans son livre La filiation de l'homme et la sélection par le sexe, qui est traduit. Et donc, tout cela va conduire à dorénavant traiter ces hystériques, soit dans des psychothérapies, puisque le terme va apparaître et va être mis en acte par Dejrine, par Janet et par d'autres, et la psychoanalyse que va inventer Freud. Alors, l'émergence de ce nouveau regard, et je vais conclure par là, est longue, difficile, inégale selon les pays. En France, elle est particulièrement inégale. Et la Grande Guerre sera un moment important aussi pour l'hystérique, puisque c'est une étape particulièrement pénible à travers les shell-shocks, le choc traumatique, qui va faire surgir l'hystérie très fortement chez les soldats. Et l'hystérique mâle sera interprétée souvent en termes de lâche, d'efféminé, voire en termes racistes. Hein. Seront stigmatisés les Irlandais, les Écossais, mauvais soldats anglais, les Juifs dans d'autres régiments. Et l'hystérie et la nervosité vont devenir quelquefois des caractéristiques raciales et des caractéristiques de signes d'appartenance de classe ou de nation. Et on aura évidemment beaucoup de thérapeutiques, dont celle de l'électricité, hein, je n'en ai pas parlé, mais c'est une des grandes thérapeutiques, avec l'hydrothérapie, hein, douche, bain, etc., qui sont utilisées, puisque le but de la plupart de ces médecins, c'était de faire repartir, bien sûr, les soldats à la guerre. Donc le difficile travail sur l'hystérique va reprendre après cette grande guerre, s'adossant tout de même à l'émergence d'une nouvelle herméneutique élaborée donc tout à la fois par la psychologie, par la psychiatrie et par la psychanalyse, qui toutes les trois se modifient ou naissent. Et c'est une tâche tortueuse, lente, puisque vous savez que l'hystérique et l'hystérie sont toujours en question. Le DSM l'a fait disparaître. Bon, j'ignore si vous l'avez fait disparaître de vos étiologies. Voilà, bon, donc j'ai été certainement un peu systématique, mais bon, je vous renvoie éventuellement à mon livre et puis à d'autres lectures, puisque il y a évidemment une bibliographie aussi importante. Merci. Je vous remercie.
Et merci beaucoup, Madame Edelman, de nous avoir dressé en une heure le tableau d'un siècle, et c'est vrai qu'on aura aussi plus d'informations dans votre livre, mais les grands points y sont, et c'était vraiment une conférence passionnante. Moi, je pensais, en tant que néophyte, que l'hystérie était une construction sociale. Alors, est-ce que l'hystérie est une construction sociale? Parce que le terme d'hystérie, comme vous en avez parlé à la fin de votre conférence, est-ce qu'on parle encore d'hystérie aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a eu un glissement sémantique? Est-ce qu'il y a un autre terme qui remplace l'hystérie, ou quand on parle d'hystérique aujourd'hui, est-ce qu'on parle encore de la même chose que ce dont vous venez de parler? C'est une première question.
Là, c'est pas à moi qu'il faudrait le poser, je pense que c'est aux médecins. C'est très partagé, enfin j'en ai... Mais bon, là, je pense que beaucoup d'entre vous sont... Enfin, j'en sais rien, mais... L'hystérie, en tant que étiologie, a disparu donc des manuels de psychiatrie officiels. Elle a complètement éclaté en différents symptômes. Beaucoup de psychanalystes, bien sûr, je dirais, continuent à parler d'hystérie. L'hystérique est toujours, enfin, le terme est toujours utilisé. Enfin, bon, je vais le prendre moi comme exemple. J'ai été traitée d'hystérique de temps à autre. Les hommes, plus rarement sans doute, quand même. Hein. Il suffit d'être. Hein. Voilà, donc de toute façon, je pense que ce parcours des métamorphoses de l'hystérique montre qu'en effet, il y a autour de réels symptômes qui eux n'ont guère changé d'ailleurs, enfin il y a eu quelques symptômes qui ont disparu mais qui pourraient réapparaître, c'est une construction en effet sociale et culturelle, bien sûr, enfin bien, oui je pense